Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi. Vous le savez, journée exceptionnelle sur RMC autour de Marseille, Paris Saint-Germain. Coup d'envoi 20h45. Vous allez vivre une journée magnifique, évidemment, une soirée, une après-soirée aussi, jusqu'à 1h du matin pour vous parler de cette rencontre. Avec Christophe Cessieux ce matin, David Douillet, Jérôme Pinault, Marie Martineau. Et nous accueillons, oh, vous le connaissez sur RMC, Daniel Riolo. Salut Daniel.
Salut tout le monde.
Bonjour. Salut Daniel.
Merci d'être avec nous pour parler de cet OM Paris Saint-Germain dans quelques instants. Ça va, t'es d'attaque, t'es en forme?
Absolument, absolument. Bon, il y a le déjeuner quand même de Pâques qui va arriver, qui est d'abord la priorité. Et puis,
oui,
on a le temps de se préparer pour le match de ce soir.
Oui, oui. Quelle bonne nouvelle. Il y a David le gourmand qui est là. Vous nous direz évidemment ce que vous avez prévu les uns et les autres dans quelques instants.
Un sandwich triangle, un bureau entre midi et 13h.
Moi, ça va être sandwich triangle aussi, mais 10 euros plus cher, puisque dans le
d'accord. Pareil.
Dans le train retour.
Ok, ça donne envie tous les trois. Ah, j'ai plutôt tourné vers Daniel et...
Bah, ouais, vas-y, David, va vers eux plutôt.
David,
ouais,
dis-nous ce que tu vas manger.
Oh, il a manger. Déjà mangé.
Il a mangé un sanglier, trois faisans.
Arrêtez. David, c'est quoi le menu?
Non, le menu, c'est l'agneau. L'agneau, tu manges un bon gigot d'agneau avec une bonne plâtrée de flageolets.
Oh, le tout. Oh, ça va être sympa.
Le tout. Bah oui, bah quoi.
De l'ail en pagaille.
Mais bien sûr, attends, les basiques. C'est... Et puis le tout arrosé d'un excellent vin rouge. Voilà,
oh, très bien.
Allez,
parfait.
Apologie de la viande,
Daniel,
de la viande.
À la sieste à 16h.
Daniel.
Je pense qu'on sera pas loin, mais la plâtrée de flageolets, mon ami, devrait pas être invitée.
Mais c'est dommage, reste, c'est dommage.
Attention. Pour le reste, évidemment, qu'il y aura l'agneau pascal, bien sûr. Autant j'ai demandé une partie du menu, mais j'ai pas l'accompagnement, j'ai pas demandé à ma maman.
Bon, parfait.
Va sur le flageolet.
Vous savez quoi, j'ai plus trop envie de parler de foot. Moi, je crois que je suis bien à parler tous ensemble. Bon, quand même, dans quelques instants, Luis Enrique qui ne s'interdit pas de faire tourner ce soir au Vélodrome. Est-ce que ce serait un manque de respect? On va en débattre. 11h30, le débat caché, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Je sais que ça va vous plaire et que vous allez avoir envie de réagir. Et puis 11h45, c'était mieux avant, le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux, spécial Jeux Olympiques 1960 aujourd'hui,
ouais.
JO de Rome.
On va dans le pays préféré de Daniel, on va à Rome, la Dolce Vita 1960, les Vespa qui pétaradent dans les rues de la ville éternelle, et un garçon incroyable, un Éthiopien qui court le marathon les pieds nus et qui devient le premier champion olympique noir africain à remporter une médaille d'or en athlétisme. Il s'appelait Abebe Bikila et il a une histoire complètement dingue, je vais vous la raconter tout à l'heure.
Eh bien, on a hâte, avec toi, Christophe Cessieux, le 7 et mieux avant du dimanche. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Gandhi qui a dit un jour: commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous.
RMC, les grandes gueules du sport, passent la seconde.
Aujourd'hui, vous allez découvrir une méthode pour définir et classer ses priorités.
C'est quand même un match amical.
Vous avez dû faire un choix qui était difficile et que d'ailleurs, vous ne l'avez peut-être pas encore fait.
On ne voit pas sur la pelouse Kylian Mbappé.
Ouais, il est
habillé.
Tout sourire au téléphone. Alors, on va se demander qui est au bout du fil.
Vous pouvez vous sentir tiraillé dans un sens ou dans un autre et du coup, vous ne savez pas quelle direction prendre dans votre vie.
Depuis que j'ai commencé le foot, je suis comme ça, je suis arrivé comme ça. Et voilà, je vais rester comme ça. Et parce que c'est ce qui me motive, c'est mon moteur.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un.
Cette direction, elle est donnée par vos valeurs.
Donc l'idée, allez, on va pas dire la seconde roue du carrosse, mais...
Qu'est-ce que tu sous-entends?
Papier accélération, papier assurant la passion, papier tout seul. Oh, aïe, le coup de clean dans le Vélodrome.
Il y a un décalage.
Kylian Mbappé sera-t-il titulaire ce soir au stade Vélodrome? C'est l'une des questions avant ce match OM Paris Saint-Germain. Plus largement, Luis Enrique va-t-il considérer cette rencontre face à l'OM comme un match important dans sa saison? Dans trois jours, le PSG reçoit Rennes en demi-finale de Coupe de France et dans 10 jours, le PSG reçoit Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions. La musique qui fout les jetons. Et cette question, faire tourner pour un OM Paris Saint-Germain, est-ce un manque de respect? Oui ou non? Jérôme Pinault.
Non.
Christophe Cessieux.
Non plus.
Marie Martineau.
Ah non.
Oh là, ça me fait peur tout ça. David Douillet.
Bah ouais, non, enfin non.
Non, ok, heureusement que j'ai Daniel Riolo dans cette émission. Daniel Riolo, oui ou non?
Il faut que je réponde oui ou non tout de suite ou je développe?
D'abord, tu dis oui ou non, ou les deux.
Ah bah, évidemment oui, et ça ne m'étonne pas d'entendre ce que j'ai entendu autour de la table.
On n'a rien dit.
Malheureusement.
Merci Daniel malheureusement. D'être ici dans cette émission avec nous. Comme ça va bien chauffer dans quelques instants. Juste avant de vous écouter, on va écouter Luis Enrique, hier en conférence de presse. Il a plus qu'ouvert la porte, hein, Luis Enrique.
Tout est possible. Je suis conscient de l'importance de ce rendez-vous, de cette rivalité pour le club et les supporters. Je veux qu'on voit un grand spectacle. L'objectif, c'est d'aller gagner ce match contre l'éternel rival. Mais en tant que responsable de mon équipe, je dois aussi avoir une vision de ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais bien sûr, on va aller à Marseille pour être compétitif. Et l'objectif est de donner de la joie à nos supporters.
Donner de la joie, mais en tant qu'entraîneur, vous l'avez bien compris, bah, il a peut-être d'autres choses à gérer. Serait-ce un manque de respect, oui ou non, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Avant d'écouter Daniel, on va écouter vos positions sur cette rencontre. Qui veut
Moi, je veux bien y aller parce que après, vas-y, comme Marie. Ça, vous direz des trucs de spécialistes.
Vas-y, Marie.
Moi, je suis juste allé voir le classement. Ils ont 20 points d'avance. Ils sont en tête de ce classement. Oui, c'est un classico. En quoi c'est irrespectueux quand tu as 20 points d'avance de faire les choix que tu as envie, éventuellement de faire tourner pour ménager ton équipe en vue de championnats qui sont quand même vraiment qui arrivent là très très vite, notamment la Champions League. Je vois vraiment pas quel est le problème.
Moi, j'ai juste à te voir la composition et de voir les joueurs. Et
oui, déjà, c'est pas sûr. Hein. Bah, là, tu pars d'une supposition qui
et puis, fait tourner. Et puis, quand bien même, qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire tourner? Quand tu vois l'effectif pléthorique du Paris Saint-Germain, tu te dis que de toute façon, il y aura une très belle équipe sur le terrain. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne fait plus jouer Mbappé depuis quelques mois, de quelques semaines. Donc peut-être s'il fait tourner, on va voir Mbappé.
Voilà.
Ça, c'est peut-être bien pour le Vélodrome.
C'est bien de le prendre ensemble.
Et la deuxième, la chose que moi, je dis non, mais je suis un peu sceptique et pas tout à fait d'accord avec cette chose-là. Je me dis, est-ce que si Luis Enrique est entraîneur du Barça, que le Barça a 20 points d'avance sur le 20 points d'avance sur le Real un jour, dans une vie, dans une autre vie sûrement, est-ce que quand bien même il fait tourner avec cette âme
merci,
de catalan,
c'est
la seule chose, Daniel,
merci.
Sur laquelle je veux dire.
Merci.
Par contre, aujourd'hui,
ben voilà, ben
aujourd'hui
dit,
attends,
on peut arrêter là. Hein.
Attends, aujourd'hui, il a quand même une mission. Ce match, ce classique, je pense qu'Enrique l'a dans la tête, mais il n'arrive pas au bon moment pour lui. Il a trop d'avance pour dire que c'est un match important. Il a un match important, c'est mercredi, puisqu'on lui a demandé de gagner des titres, et mercredi, c'est contre Rennes. Alors, ils ont la marge pour gagner contre Rennes. Il peut même faire jouer la même équipe qu'aujourd'hui contre Rennes, et ça gagnera quand même. Et puis derrière, il y a le Barça. Donc, mais il n'y a pas de manque de respect vis-à-vis des autres, parce que déjà, ce sera un manque de respect vis-à-vis des joueurs, de ces joueurs, de dire, ouais, je mets des moins bons et tant pis, et l'OM en face, il va y avoir de l'adversité.
Mais pour le téléspectateur, pour l'Olympique de Marseille, pour
non,
le Paris Saint-Germain,
c'est quoi? Mais parce que aujourd'hui, le sport professionnel est devenu une affaire d'épicier. Aujourd'hui, c'est fini le romantisme.
Je suis pas d'accord avec Denis.
Mais de quoi tu parles?
Mais je te dis que ça, regarde ce qui se passe en rugby toutes les semaines, David. Toutes les semaines, à part la semaine dernière où il y a eu un match incroyable entre Bordeaux et Toulouse et où les entraîneurs avaient choisi de ne pas faire tourner. Mais aujourd'hui, ils calculent tout en fonction des échéances qui arrivent, de l'importance. Ils mesurent l'importance des événements.
Mais
et pour Luis Enrique,
la priorité,
c'est pas d'aller gagner au Vélodrome ce soir, c'est de battre le Barça, c'est d'être en finale de la Coupe de France. C'est là-dessus qu'il sera jugé à la fin de la saison. C'est pas par une victoire au Stade Vélodrome. Alors évidemment, quand on est passionné de ces deux clubs et du football et du spectacle en général, ça fait râler, mais pas à manquer de respect.
Sauf que
c'est le sport actuel, c'est tout.
Ok, David, et après Daniel.
Le manque de respect avec le banc que tu as au Paris Saint-Germain, il y a deux chiffres qui l'illustrent, hein. C'est simple, excusez-moi d'être en décalé par rapport à tout ce que vous allez dire, mais quand t'as un budget de 700 millions d'euros avec un budget de 270 millions d'euros, 700 millions, 270, le respect il est où? Tu fais quoi? Enfin bon, tu fais ce que tu veux, quoi. Toi, de 700 millions d'euros, 270, tu peux t'acheter qui tu veux, comme tu
peu
veux.
Importe,
tu veux dire qu'il n'y a plus vraiment de classico,
voilà.
En fait.
Pardon?
Tu veux dire qu'il n'y a plus vraiment de classico, que c'est un truc qu'on se raconte, c'est une histoire qu'on se raconte, mais ça n'existe
pas. Bien sûr, c'est une histoire
pour faire. Je pense que sportivement, je suis assez d'accord avec toi.
Etc.
Oui.
Mais 700 millions, tu t'écrases tout, qu'est-ce que tu veux faire? Donc le truc, il n'existe plus, le championnat, il n'existe plus, mais dès le départ, à la seconde où la Ligue 1 démarre sa première journée, t'as un club qui a 700 millions d'euros de budget et l'autre 270, le deuxième, voilà, terminé, fin du bal. Il n'y a pas de concurrence, qu'est-ce que vous me racontez?
Daniel Riolo, vas-y.
Ah, qu'est-ce que c'est beau d'entendre tout ça. Les mêmes qui pourraient taper et cracher sur le foot business, sur l'oseille qui pourrit tout, alors qu'on a quelque chose qui est
historique. J'ai pas dit que ça pourrissait tout, hein. J'ai dit que quand t'as plus d'oseille, c'est plus facile de gagner, c'est tout.
Non, mais je parle pas que de toi, David. Je parle également de Christophe Cessieux, qui entrerait largement dans le camp de ceux qui critiquent le foot business et tout ce que l'oseille peut casser dans une société. On a quelque chose d'historique, de patrimonial. Et on est là à se dire, il faut faire tourner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais je crois que c'est Jérôme qui l'a dit très justement. Je pense, et j'en suis même convaincu, que lors d'un Barça-Real, qu'il y ait 10 points, 20 points, qu'il y ait des écarts de budget, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, tout serait respecté. Mais... Et le match serait en dehors des clous de toute analyse financière, point d'avance, juste parce que pour les gens, pour l'histoire du sport, ça serait respecté. Mais comme en France, on a un problème avec la culture du sport, avec la culture du foot, et qu'on est sans arrêt en train de regarder dans l'assiette du voisin, en train de dire, ah les autres ils font tout mieux, ah les autres l'histoire du sport, ah machin, et puis après quand on a ça chez nous, on crache dessus. Cet après-midi, 17h30, je vous donne rendez-vous, allez, ça doit être sur Canal ou je ne sais pas quoi, il y aura Manchester City Arsenal. Allez voir s'il va y avoir des remplaçants, si on va pas respecter l'affiche ou si on va penser au match de Ligue des Champions dans une semaine, ou si on va penser au match de couple dans 3 jours, ou si on va penser à l'agneau pascal ou à n'importe quelle connerie d'autre. Non, on va jouer le match parce que c'est important et on va arrêter de se mettre à penser à ceci, à cela ou machin. Il y a des choses qui font partie de l'histoire, qui font partie du patrimoine et on les respecte et on n'est pas là. Vous vous rendez compte que Luis Enrique, il a gangréné le cerveau aussi bien d'une partie des supporters que d'une grande partie des observateurs. Il a réussi, cet homme-là, à gangréner le cerveau de ces gens-là en expliquant, en inventant des débats, à savoir, on peut faire tourner dans un Marseille-PSG. On peut, et ça c'est le comble absolu, on peut ne pas faire jouer Mbappé dans un Marseille-PSG. Mais bien sûr, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas dans le match de foot qui est le plus important de notre pays, nous qui chialons tout le temps parce qu'on n'a pas de culture foot, parce qu'on n'arrive pas à gagner en Coupe d'Europe, parce que c'est le manque d'histoire, parce que c'est le manque d'implication de tous.
Parce qu'il est espagnol aussi. Lui, il est espagnol lui, aussi, il s'en fout, lui. Hein.
Lui, il a réussi à nous inventer le match où Mbappé pourrait être sur le banc.
Mais il n'est pas français.
Lui, il a réussi à nous inventer à une conférence de presse ou à deux semaines...
Mais si lui, il arrive à faire gagner PSG. La Champions League. Attendez, tout ce que tu racontes, ça n'a aucun sens.
Lui, il a réussi à nous inventer que Barça-PSG, il en parle en disant que le Barça, c'est son club de cœur et où 4 ou 5 joueurs du Barça pourraient facilement prendre la place des Parisiens dans une équipe. Et nous, après, on ira chialer sur notre manque de culture, sur le manque d'histoire et sur tout ça. Nous, on ira chialer. Mais je vais vous dire, allez tous chialer, c'est pas un problème. Lui, il vous a gangréné la tête et moi, en tout cas, il ne l'aura pas gangréné la tête.
Je jure qu'ils vont pas me faire pleurer, perso.
Daniel, Arsenal 64 points, Manchester City 63. Donc c'est pas qu'une histoire de suprématie, c'est une histoire de titre aussi. Cet après-midi à 17h35,
je dis ça comme ça. Hein. Et en plus, Manchester City Arsenal, c'est pas la même chose. Il faudrait faire Arsenal Tottenham.
Ouais, mais Arsenal,
peux être certain, même s'ils étaient dans le cul du classement, même s'ils étaient avec 40 points d'avance, je peux t'assurer que c'est le match le plus important de la saison. Comme quand il y a Lazio Roma, comme quand il y a Inter contre Milan ou Juve Inter ou Barça Real. Il y a des choses qui dépasse tout, le sport, les points, la comptabilité, le repos, le machin, tout ce qu'on veut. Il y a des choses qui doivent être au-dessus. Parce que si tout ça n'est pas au-dessus, eh bien alors faudra pas venir chialer sur notre manque de culture, le manque d'oseille, le foot business qui casse tout, l'argent qui corrompt tout le monde. Il faudra arrêter de venir chialer après dans ce cas-là. Okay.
Mais c'est vrai qu'un match au MPSG, on n'a pas envie de le galvauder.
Un match au MPSG, c'est un match au MPSG. Franchement, moi je suis supporter de l'OM. Ce soir, il y a un maillot de l'OM et un maillot du Paris Saint-Germain. Je supporte mon équipe et j'espère que Marseille battra Paris et ils auront battu Paris. Et mais moi, je m'en tape de savoir qui était sur le banc.
Enrique, il s'en fout, il est espagnol, les copains, il s'en fout complètement.
Non, ça, tu peux pas dire ça. C'est pas vrai.
La preuve.
Non, mais parce qu'il a la culture, justement, du classico, quand même, David. Quand t'es catalan, quand t'as été entraîneur.
Chez lui, mais pas en France.
Tu peux l'appliquer aussi dans le championnat dans lequel tu évolues. Il y a des trucs sacrés, ça, Daniel a raison. Le classico entre Marseille et le PSG, c'est quand même quelque chose de sacré. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour le PSG, il y a des choses plus sacrées.
C'est sacré, il faut gagner. Ce qui est le plus malheureux dans cette histoire.
C'est pas sa feuille de route de gagner. C'est pas écrit dans ce
feuille de route. Il doit respecter le classico.
Non, mais de gagner le match au MPG, c'est pas dans sa feuille de route. Sa feuille de route, c'est de gagner la Champions League.
Je suis pas d'accord.
Si c'est pas dans sa feuille de route, c'est un vrai problème. Parce que il faut, quand tu es au Paris Saint-Germain et que tu diriges le club, justement, puisque c'est toi qui en parlais, David, justement parce que tu as un budget démesuré par rapport aux autres, sa feuille de route, c'est de réussir à gagner le championnat, la Coupe de France, et il y a deux rendez-vous dans l'année.
Non, mais ça, j'ai pas dit le contraire.
C'est PSGOM, il faut les gagner. Et la Ligue des Champions, évidemment, c'est un objectif majeur. Mais quand tu es dans ce club-là, que tu as autant de moyens, puisque encore une fois, c'est toi qui faisais allusion, eh ben, il n'y a pas de petite priorité, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas les carottes, c'est plus cher que les concombres. Non, tu gagnes et tu y vas,
évidemment.
Et c'est tout.
Mais après, Daniel,
à aucun moment, il a parlé de matchs pas très importants. Il a dit qu'il aller faire tourner avec l'effectif qu'il a.
Imagine,
attends. Tout à l'heure, Daniel nous dit vous allez aller chialer, etc. Il me semble, et j'écoute beaucoup tes émissions aussi, qu'à un moment donné, on a légèrement supputé l'idée que le Paris Saint-Germain jouait peut-être mieux actuellement sans Kylian.
Jamais de la vie. Je ne sais pas qui a pu sortir cette énormité, mais certainement pas moi. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est archi faux. Et c'est quand même le joueur qui a encore permis au PSG de se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Quand tu mets trois buts en deux matchs, pardon, mais c'est pas un joueur.
Donc réjouissons-nous, puisque faire tourner, ça va faire jouer Kylian, puisqu'il est sur le banc depuis le début.
Et depuis le début de quoi? Il a fait un match où il a démarré sur le banc. Il y a pas de.
Enfin, il est pas un match
où il est sorti. Moi, je veux bien. On invente des débats. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, lui, dans sa conférence de presse, il a quand même dit qu'il mettrait l'équipe la plus compétitive et qu'il irait. Mais moi, ce que je reproche, c'est que, en fait, il a réussi. Et tous les observateurs et une partie des supporters se laissent endormir. Lui, finalement, si on écoute bien, lui, il dit quand même qu'il veut aller le gagner, qu'il veut ceci, qu'il veut cela.
Il a jamais
mais
dit.
De faire relativiser et de donner des débats, parce que la schizophrénie médiatique, qui est quand même de dire que pendant une semaine, on fait des émissions spéciales, et que le jour J, on dit « Ouais, c'est peut-être pas si important que ça », ben, pardon, mais ça, moi, je ne le comprends pas.
Mais
je
c'est pas nous qui faisons les sommaires des émissions non plus. Alors, on a le droit de venir avec nos idées. Moi, je viens avec mon inné. Je te dis, ce match n'est pas si important que ça aujourd'hui, là où on est, le PSG dans la saison. Ça me regarde, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on fait des spéciales toute la journée parce qu'il y a OM-PSG, c'est pas le problème.
Ce qui est sûr, c'est par exemple toi Jérôme, supporter de l'Olympique de Marseille, est-ce que battre le PSG sans Kylian Mbappé, ça a la même saveur? Oui,
exactement.
On s'en moque.
Ah oui. Exactement la même saveur, il
faut gagner, c'est du sport.
C'est tout, c'est un tout. Match, une équipe, un club contre un autre. Moi, je l'ai cette culture du classico parce que je suis supporter de ce club. Quand on joue contre Paris, quel que soit le 11 aligné, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le sport final.
Est-ce que tu aimerais voir l'OM qui ne joue plus le championnat et qui a d'autres perspectives en tête, mettre une équipe, pas de remplaçant, faire tourner?
Franchement, je vais te dire un truc. La culture marseillaise pour ce classico, elle est multiple. Pied par mille par rapport à la culture parisienne.
Moi, je trouve que ça entretient la
limosité. Alors ça, c'est complètement faux.
C'est David contre Goliath.
Je m'en doutais que t'allais réagir.
Ça n'a vraiment aucun sens de dire ça.
Même si il est 11h23, quand même, il est dingue.
En tout cas, dire publiquement que tu fais semblant de le prendre au-dessus de la jambe, je trouve que c'est une belle façon d'entretenir aussi l'animosité. Dire, on est tellement supérieur à vous qu'on pourrait même aligner une équipe qu'on fait tourner. On vous mettrait quand même une branlée.
Non, mais il dit pas ça.
Je pense que dans le sport, vous seriez les premiers à condamner le mépris, quoi.
Mais c'est pas du mépris,
c'est du trash talking, c'est le sport d'aujourd'hui.
Et puis, ce serait du mépris envers ces joueurs qui ne met pas forcément titulaire à chaque fois. Il les a, ces joueurs. Alors, du coup, ils servent à rien. Alors, moi, je pense qu'il va faire tourner, mais les joueurs qui seront alignés sur la pelouse ce soir, mais quel que soit le côté.
En fait, pour quelle raison objective, il faudrait faire tourner. Enfin, j'ai du mal à comprendre.
La semaine prochaine,
il y a un PSG Clermont. La semaine prochaine, samedi soir, il y a un
match
PSG.
En fait,
je comprends même pas la. Je comprends même pas le débat.
Il y a PSG Rennes là.
Dans 3 jours.
Et alors, les joueurs de foot, ils sont pas faits pour jouer tous les 3 jours. Mais de quoi vous parlez?
A priori,
c'est,
pas.
C'est quoi en fait?
On le sait.
Alors, on a compris vos positions sur le sujet. Juste, Daniel, une petite réaction parce que je l'ai passé ce matin à 9h30, mais je voudrais t'entendre là-dessus parce que je sais que t'es assez remonté sur Luis Enrique. C'était hier sur Prime Video. Voici ce qu'il disait sur Kylian Mbappé.
Pourquoi ça serait son dernier? Moi, j'ai toujours l'espoir que Kylian change d'opinion. Il n'a rien dit pour le moment. Il peut changer d'opinion. Imaginons nous gagnons les 4 titres cette saison et que Kylian Mbappé fait son choix au dernier moment et décide que sa place est à Paris. Pourquoi pas?
Pourquoi non?
n'importe quel.
Voilà. Kylian Mbappé qui pourrait rester.
Là, vous avez.
Allez, remets une pièce en bois.
Là, vous avez écrit noir sur blanc pourquoi je me tue à vous dire depuis des semaines que cet homme-là vous prend tous pour des cons. Vous voulez que je vous explique pourquoi il vous prend pour des cons quand il dit ça ?
Parce
que il y a deux semaines, on nous explique, il y a un mois même, on nous explique que toute sa stratégie de ne pas le faire jouer ou de le faire sortir, c'est pour préparer l'équipe à jouer sans lui. Et là, il vient hier et il dit, mais non, personne n'a dit, personne n'est certain qu'il va partir. Alors que lui, quand il fait ses choix il y a un mois, c'est parce qu'il est sûr qu'il va partir. Alors pourquoi aujourd'hui, il vient nous dire, ben non, on n'est pas sûr qu'il va partir, je vais peut-être le faire changer d'avis. Donc cet homme-là raconte absolument mais n'importe quoi dans ses conférences de presse. Il a le droit de le faire parce que c'est son droit. Après tout, personne ne l'oblige à ne pas se foutre de la gueule des gens. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est au moins qu'on souligne qui se fout de la gueule du monde en permanence. Et moi, je vous invite à écouter les conférences de presse de Franck Haez, de Jean-Louis Gasset, de Pierre Sage, de tous les entraîneurs de Ligue 1. Vous verrez que ce sont des gens absolument normaux, qui parlent, qui respectent les gens qui les écoutent, et que lui, au contraire, il se fout de votre gueule. Moi, je dis pas qu'il travaille mal. Je dis qu'il se fout de votre gueule. Et personne le dit.
Ah bah, je crois que c'est fait dans cette émission. Et je sais que c'est fait aussi de temps en temps dans l'after. On va souhaiter un bon déjeuner à Daniel.
Vous savez qui me fait penser à Daniel quand il est comme ça? À Jean-Pierre Coff. Vous vous rappelez de Jean-Pierre Coff?
C'est de la merde, moi je vous le dis, sortez de la merde, les gars, on vous prend pour des cons, on vous.
Et c'est pour ça qu'on adore Daniel. Alors, merci
Christophe,
Daniel.
Christophe, au-delà de cette sortie, je me permets de t'interpeller, toi qui es journaliste depuis des années, sur le dernier point que je viens d'évoquer. J'aimerais ton avis. Quand il y a un mois, il dit moi je fais toutes mes équipes et je le sors, machin, parce que je dois préparer mon équipe l'année prochaine. Et là, hier, il dit je suis pas sûr qu'il parte. Est-ce qu'il se fout de notre gueule, ou non?
Mais bien sûr, Daniel, il se fout de la gueule. Tu sais, il se fout de la gueule des journalistes en règle générale dans les conférences de presse. Je crois qu'il ne déteste rien de plus au monde que les journalistes et les conférences de presse. Donc s'il peut nous rouler dans la farine le plus souvent possible, il le fait, il se gêne pas. Donc je suis entièrement d'accord avec toi.
Et on est d'accord que tous les entraîneurs ne font pas ça.
Merci, Daniel, d'avoir été avec nous.
Moi, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Je suis content qu'un journaliste expérimenté comme toi le dise.
Voilà, c'est magnifique.
Un membre de plus dans le fan club Daniel Riolo.
Et en tout cas,
je suis fan de Daniel.
On revient plus souvent dans cette émission, mon cher Daniel.
J'adore quand tu viens dans l'émission. Mets un gaz.
Merci. À bientôt, bonne journée.
Merci d'avoir été avec nous.
Ne fais pas l'impasse sur le flageolet ce midi, Daniel. Ça dévient.
La bonne plâtrée, comme tu l'appelles. Et évidemment, Daniel, que vous retrouverez ce soir après le classique pour débriefer cette rencontre. 11h28, on se retrouve dans quelques instants pour le débat caché. Vous ne savez pas de quoi on va parler, mais ça va vous plaire. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h31 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marie Martineau, David Douillet, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. Un très beau cadeau à vous faire gagner tout de suite ce week-end. Des places pour assister au show des Harlem Globetrotters à l'Accor Arena. Ça se passera dimanche prochain à 18h pour assister à ce match de basket toujours fou. Cette exhibition avec ce show à l'américaine. Et bien pour remporter vos places, vous appelez tout de suite le 32-16. Nous avons pas mal de places à vous offrir. Donc n'hésitez pas, le 32-16 pour le match des Harlem Globetrotters. C'est donc dimanche prochain. Tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Le but, ne rien savoir sur ce que je vais vous annoncer, mais réagir.
Ne rien dire.
À chaud. Si, dire beaucoup de choses et réagir à chaud. Le guet-apens du jour, c'est ça. Mélina Robert-Michon est candidate.
Forcément, ça me branche. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que les Jeux, ça représente énormément de choses pour moi. Ça a guidé plus de 20 ans de ma vie. Ils doivent me choisir si mon parcours les inspire, si ma personnalité leur plaît. Je pense que de toute façon, je suis comme je suis. Je ne changerai pas ça. Je pense que chacun a une définition un peu propre du rôle de porte-drapeau, de qui ferait un beau porte-drapeau. Et voilà, ça doit correspondre à leur idée, à eux. En tout cas, moi, je serais très fière de les représenter, de les emmener tous avec moi sur ces Jeux pour que ça soit une belle réussite.
Eh oui, la campagne est officiellement ouverte. Après Florent Manaudou, Mélina Robert-Michon, la lanceuse de disques, a confié cette semaine son envie d'être porte-drapeau de la délégation française pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Dans le même temps, Nicolas Karabatic, la star du hand, a annoncé qu'il n'était pas candidat dans une interview au Parisien hier. Voici ce qu'il dit. J'ai reçu pas mal de marques de soutien qui m'ont fait très plaisir, mais j'ai aussi lu ensuite une réaction de mon président de Fédé qui a dit qu'il ne proposerait pas ma candidature comme porte-drapeau. Je n'ai pas de souci avec ça. parce que je ne sais pas si je serai au jeu. Je crois que c'est un processus très long qui peut avoir aussi un petit côté politique. Voici ce que dit Nicolas Karabatic, notre débat. La campagne pour être porte-drapeau, est-ce que c'est trop politique ? Oui ou non ? Jérôme Pinault ?
Oui.
Marie Martineau ?
Non.
David Douillet ?
Non.
Christophe Cessieux ?
Je sais pas trop là. Tu me prends.
Ouais, ça va vite. Là, hein, là faut vite trouver une. Ouais.
Est-ce que c'est trop politique ? Est-ce qu'on en fait trop sur. Ouais. Allez, oui, je vais dire oui.
Oui. Ok. Jérôme, t'as envie de commencer sur ce
débat ?
Ouais,
si tu veux. Oui, c'est trop politique parce que c'est la première fois. J'avais pas fait tant attention à cela avant pour cette nomination de porte-drapeau, mais là, j'ai l'impression vraiment d'assister à ça. Un avant-premier tour d'élection. C'est-à-dire que on fait chacun y va de sa petite phrase, de sa petite émission, de son petit article. Moi, j'aimerais bien parce que je pense que c'est une nomination au mérite, à l'image, et ça vient d'au-dessus. Et on doit juste être un très bon sportif, avoir une super image et dégager quelque chose de grand et d'être un grand champion aussi, ça compte, ou une championne évidemment, pour être porte-drapeau. C'est tout. Je crois qu'on doit se suffire à soi-même pour être porte-drapeau. Et derrière, c'est une décision qui doit être prise. On n'a pas, en tant qu'athlète, à rentrer, voter. Ça fait un peu voter pour moi, quoi.
Ouais.
Il manque que ça. Oui, j'aimerais bien, ce serait une fierté. Non, on s'en tape.
En plus, il y aura un vote des athlètes. Hein.
Oui, ça, déjà, c'est des athlètes qui votent.
Oui. Ils sont
donc, on rentre dans un processus politique et ça me gêne. Me gêne. Et qu'il y ait un vote des athlètes, c'est pas grave. C'est-à-dire que moi, je pense que tout athlète qui vote va dire... voilà, les deux personnes, l'homme et la femme, qui méritent le plus de porter le drapeau à Paris 2024, parce que c'est d'abord ça, ce sont eux et eux. Terminé. Les athlètes, ils savent. On n'a pas besoin de... Oui, alors moi, si j'étais athlète, si j'étais représentante, c'est pas l'élection Miss France, ça va, quoi. On n'a pas besoin de mettre en avant ses qualités. On a le mérite, on a une image. Le plus important, Marie, tu peux pas me dire l'inverse, d'être un porte-drapeau français aux Jeux Olympiques de Paris en France, c'est d'abord d'avoir une super image de grande champion ou championne, mais quelque chose qui dépasse même le sport.
Mais tu sais, elle n'a pas pris un micro pour aller dire votez pour moi. Elle a répondu certainement à une question qu'on lui a posée.
Elle va faire campagne.
Non, parce qu'elle fait campagne et qu'elle va faire différents médias, notamment RMC, pour dire pourquoi ils ont envie d'être.
Je suis d'accord avec toi, David.
C'est la plus grosse erreur.
Mais c'est pas la seule, David, qui fait ça. Hein. Ils font tous ça.
Hein. Elle fait campagne, toi, David.
David, il était incontournable.
Pour être porte-drapeau, ça ne se demande pas. Voilà.
Exactement. C'est comme un prix à la caisse.
Voilà. Et justement, une des valeurs, je trouve, hein, quand t'es porte-drapeau, etc., etc. C'est toi qui a le drapeau, mais la vérité, c'est que c'est l'ensemble de la délégation française qui est le plus important. Ok. Et puis il y en a un qui emmène le truc parce qu'il porte le drapeau, d'accord. Mais moi, le souvenir que j'en ai et ce qui m'a fait le plus vibrer dans cette affaire-là, c'est d'avoir derrière moi toute la délégation qui était là, présente. Et puis, t'as ce démarrage qui fait que ça ne se demande pas. Tu l'es
oui,
ou tu l'es pas.
Et ça doit être une évidence
pour les gens quand on annonce les... Ça doit être une évidence quand on annoncera les porte-drapeaux.
Mais oui, hommes
et femmes.
Évidemment.
David, tu l'as vécu comme ça, parce que tu étais indiscutable. Tu étais iconique à ce moment-là et donc les planètes étaient alignées. Aujourd'hui, on est quand même face à pléthore d'athlètes et il n'y a pas grand monde qui ressort vraiment comme quelqu'un d'indiscutable et donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de challenge entre les uns. Mais évidemment qu'on a mis en place les athlètes eux-mêmes qui ont mis ça. J'étais pas là quand vous en avez parlé. Ce sont les athlètes eux-mêmes et élus démocratiquement par tous les sportifs de haut niveau qui ont mis en place ces critères. Je veux dire, il y a un moment donné, laissons les athlètes gérer cette histoire de porte-drapeau, puisque tu le disais toi-même, c'est le porte-drapeau des athlètes. Donc partant là, je vois vraiment pas, il y a le problème. Et ça devient
plus difficile. Mais justement, Marie,
ça se demande pas.
Moi, ce qui me gêne, c'est que les athlètes, ça va être nommé par les athlètes. On n'a pas besoin de séduire qui que ce soit.
Mais oui, mais ça se fera en interne.
Donc ça devient, dans le sens, pour moi, quand je réponds à la question de JC, oui, ça devient trop politique, c'est que c'est les athlètes qui font campagne. Il n'y a pas besoin de ça. Comme le dit David, il n'y a pas besoin d'aller faire 10 médias pour dire eh, moi, ça me plairait, moi, je vais représenter la. Non, en fait, tu vas représenter, tu vas porter un putain de drapeau pour avoir toute l'équipe derrière toi. C'est ça l'idée. C'est que tu représentes tous les mecs et les filles qui vont être derrière
toi. Je crois
qu'ils
prennent plus de risques qu'autre chose à prendre la parole parce qu'ils peuvent plutôt dire de la merde et se planter, pardon, et de dire des bêtises et se planter que vraiment être très très bon et faire l'unanimité. Et donc, c'est eux qui prennent ces risques-là. Il y en a peut-être qui ne vont pas faire campagne et juste faire confiance à leur père pour voter. Hein.
Oui, mais parfois aussi, le jeu médiatique fait qu'on se met en avant. Alors, oui,
Tu vois, moi, je suis un ancien athlète. J'ai fait une fois les Jeux Olympiques. J'étais représenté par les porte-drapeaux. J'étais fier d'avoir un porte-drapeau.
C'était qui les porte-drapeaux? Attends, tu fais 2008, hein?
Non. À Pékin, ouais.
Tu fais Pékin.
J'ai pas fait le défilé, moi.
Les portes de la salle.
Attends, moi, je suis en train de réfléchir. Sochi, c'est sûr, c'était Martin.
Bref,
peu importe. Je sais plus, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que par le jeu médiatique qu'on vient d'évoquer, moi, la semaine dernière, j'ai regardé une émission sur France Télévisions en fin de journée qui parle de sport. Il y avait Estelle Mosley. Elle est rentrée en campagne.
Ah bah oui.
Et là ça me fait zire qu'on me dise en Vendée, j'ai pas envie de voir ça.
Mais ouais, mais tu parles d'athlètes dont on parle quand même très peu souvent, qui ont un peu de lumière tous les 4 ans, et là tu leur donnes l'opportunité de éventuellement ressortir encore.
Mais non Marie, le but non, mais je de porte drapeau, il n'est pas individuel, il est de porter un collectif.
Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec toi.
Dans la campagne, c'est que tu parles que de toi.
Mais c'est un biais tellement logique.
Mais parle de l'équipe de France, c'est ça le truc.
C'était sûr. Et je te dis pas la pression par les fédés au-dessus aussi, tu sais.
Ah oui, parce que
c'est
pour ça que j'aurais. Il me semble que c'était ça. Et il y en avait qu'un parce que c'était Corpa, un porte-drapeau homme et femme. Ouais. Et c'est pour ça que je parle de la politique. Parce que derrière ces athlètes-là qui vont vers. Et moi, je connais un peu Mélina Robert-Michon parce qu'elle est de ma région. Je la vois pas faire des demandes d'aller dans les médias. Je pense qu'ils sont bien poussés par les présidents de Fédé qui veulent bien croquer.
Je te suis. Et là-dessus, tu m'as un peu retourné. Effectivement, sur ce côté-là, ça devient politique.
Bon, en tout cas, on a eu un porte-drapeau, nous, dans cette émission. C'est David Douillet, et qui connaît donc bien le sujet.
Il n'a pas fait de politique, en plus, tu vois.
Le drapeau, non, il le tenait du bras comme ça. Bah oui. C'était royal au bar.
Mais David était une évidence. Et je pense qu'aujourd'hui, si on regarde un peu et qu'on prend un peu de hauteur, il y a quelques évidences aussi.
Ah bon?
Ouais. Ah bah allez, bah alors donne-nous un.
Je donne pas parce que c'est tabou, mais
pourquoi c'est tabou?
Moi j'aimerais que Florent Manodou soit porte-drapeau.
Okay. Ouais,
c'est chez les femmes, on a remis des critères, mais même si on a beaucoup discuté, même si je donne mon avis, bah oui.
Ok, Paris Saint-Benignou. Ok, les copains.
Il y en a d'autres.
Oui, vous inquiétez pas.
Ne serait-ce que chez les G2-4, il y en a d'autres, tu vois.
Par exemple. Oui, aussi, mais t'as vu la guerre que c'est, on ne sait pas qui va y aller.
Les champions olympiques aussi, et puis.
Ouais.
Je reprends la main, on reparlera des porte-drapeaux, et je savais que ce débat caché allait marcher avec vous, les athlètes, forcément, olympiques. 11h40, on se retrouve dans quelques instants pour C'était mieux avant 1960, les JO de Rome, et une histoire absolument hallucinante. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
On va jouer le match parce que c'est important et on va arrêter de se mettre à penser à ceci, à cela ou machin.
Les grandes gueules du sport.
Je vais vous dire, allez touche qui allez, c'est pas un problème. Lui, il vous a gangréné la tête.
Jean-Christophe Drouet.
Ah, c'était Daniel Riolo il y a quelques instants dans les grandes gueules du sport. Allez réécouter ce passage si vous venez de prendre en cours cette émission. Toujours avec David Douillet, Jérôme Pinault, Marie Martineau, Christophe Cessieux. Avant le C'était mieux avant spécial Jeux Olympiques, nous allons accueillir un grand gagnant. Il s'appelle Noah ce matin. Bonjour Noah.
Bonjour.
Oh Noah, tu as quel âge?
Oh Noah.
9 ans et demi.
Salut, Noah. 9 ans et demi. Oh là là, 9 ans et demi Noah, est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle?
Oui.
Parce que tu viens de remporter le très beau maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Wow. Bravo. Wow. Noah, je suis très heureux de te l'offrir. 9 ans et demi, t'adores le foot?
Oui.
C'est qui ton équipe préférée?
Ouais, c'est...
PSG, très bien.
Non, OFC, il a dit c'est quoi ça? C'est quoi cette équipe?
Non, t'as dit PSG.
Pau FC, le FC Pau.
Non.
Pau. Ah, Pau FC,
Noah,
allez.
Noah, t'as dit PSG. Noah, voyons. Pau FC, très bien, mon cher Noah.
C'est pas bon, ça, j'y sais.
J'aime aussi le PSG.
Bien, Noah, t'inquiète pas.
Mais j'ai un croque-mitaine, ce JC.
C'est clair, c'est un fossoyeur.
Mais c'est ça, c'est typiquement Esport. Ils cherchent, tu vois, ils influencent.
On recrute.
Quand c'est l'OM, ça tombe, c'est dans le cœur.
L'OM, on aurait raccroché directement.
On n'aurait même pas décroché.
Mais non. Bravo, mon cher Noah, je suis très heureux pour toi. Passe un bon dimanche. Et on va t'envoyer très vite ce nouveau maillot de l'équipe de France qui vient tout juste de sortir.
Merci beaucoup.
Bah, je t'en prie, Noah. Et à bientôt sur RMC. Continue de nous écouter avec tes parents. Je sais qu'il y a ta maman Sophie qui est à côté. Merci à toi, Noah. Et à très vite.
À l'épo.
Sur RMC. Et oui, à l'épo. Et toujours prendre le train pour Pau, c'est important.
Gagnez le nouveau maillot des Bleus sur RMC avec Intersport et rejoignez la grande famille bleue. Intersport, distributeur officiel de l'équipe de France de football.
Les GG.
Tatopek démarre à son tour et passe les trois hommes. Mimoun reste dans sa foulée. C'est une empoignade extraordinaire.
Jesse Owens. Il arrive en première flash avec un temps de 10 secondes et 3 dixièmes.
Marito Zeperek qui revient à la hauteur de Brice Guida. C'est le champion de l'Afrique.
C'était mieux avant.
Les Jeux Olympiques, c'était mieux avant avec Christophe Cessieux. 1960, les JO de Rome.
En ce mois de septembre 1960, et ce, comme depuis le début de la quinzaine olympique, la canicule règne dans les rues de Rome. Touristes et habitants assoiffés se ruent vers les fontaines et autres glaciers de la ville éternelle pour trouver un peu de fraîcheur. Heureusement que les organisateurs des Jeux ont eu la bonne idée de décaler l'heure de départ du marathon. À la veille de la cérémonie de clôture de la 17e Olympiade, l'épreuve mythique ne débutera qu'à 17h30 pour s'achever, à la nuit tombée, dans un décor que l'on annonce grandiose. Oui, les Italiens ont voulu faire de cette épreuve une publicité vivante des beautés de la Rome éternelle. Des thermes de Caracalla à l'Arc de Constantin, en passant par la Via Appia et le Colisée, Giulio Andreotti, ministre de la Défense et président du comité d'organisation, a décidé de gâter spectateurs et athlètes. Le parcours passera également devant l'obélisque d'Aksum, monument arraché par Mussolini à l'Éthiopie en 1936, lorsque le Duce en mal de colonie décide de s'attaquer au seul pays africain non colonisé. Et les fascistes et leurs funestes chemises noires ne vont pas y aller de main morte, massacrant, pillant et bombardant à coups de gaz moutarde, le pays du Négus Haïlé Sélassié. Près d'un quart de siècle plus tard, l'empereur éthiopien et ses sujets qui ont retrouvé leur indépendance à la chute de Mussolini n'ont pas oublié l'affront et entendent prendre leur revanche sur l'Italie. Pour ce faire, ils ont envoyé à Rome une petite délégation composée de 12 représentants, 6 cyclistes et 6 athlètes, dont 2 marathoniens que personne ne connaît. Les noms de Wakira et Bikila ne sont pas du genre à impressionner les maîtres blancs du marathon. Les noirs, c'est bien connu à l'époque, n'entendent pas grand-chose à l'endurance. Leur truc à eux, c'est plus le sprint, alors pas d'inquiétude. D'autant que ce Bikila a décidé de courir le marathon les pieds nus. Mais quelle idée farfelue, pense-t-on. Au point qu'une spectatrice italienne viendra même lui proposer au départ une paire de chaussures, le pensant trop pauvre pour s'en acheter une. Si Abebe est loin d'être un milliardaire du sport, il aurait quand même de quoi se payer des chaussures. Mais la couche de corne qu'il a sous les pieds n'est pas de nature à les supporter. Alors, c'est nu-pieds que l'inconnu des hauts plateaux, ancien berger devenu membre de la garde impériale, va s'élancer. Militaire et fier de l'être, Abebe Bikila dispute là sa première course internationale, lui qui n'a encore jamais quitté son pays.
My first international competition.
Ma première compétition internationale. Mon premier voyage en avion. Ma première fois en dehors de mon pays. Ma première fois également loin de ma famille. Rome, 1960. Il est maintenant 17h30, les ombres s'allongent sur la place du Capitole d'où va être donné le départ du marathon olympique.
Départ du marathon sur l'antique voie Appia. 42 km au programme. 42 km qui s'achèveront à la nuit en raison de la chaleur écrasante qui régnait à Rome.
Au coup de pistolet, 69 concurrents s'élancent du Capitole. C'est la première fois dans l'histoire du marathon que ni le départ ni l'arrivée ne sont donnés d'un stade. Le favori, comme son nom l'indique, est russe. Il s'appelle Popov, hein, ça ne s'invente pas. Il est recordman du monde et entend décrocher la médaille d'or en même temps que le record olympique détenu par Zatopek. Mimoun, notre champion à nous, vainqueur 4 ans plus tôt à Melbourne, est aussi de la partie. Mais à bientôt 40 ans, il se sait condamné à ne faire que de la figuration. Au bout de quelques kilomètres, un petit groupe de 6 hommes se détache en même temps que le soleil disparaît derrière les 7 collines de Rome. Et avec l'entrée dans la nuit romaine, le groupe de tête s'amincit encore. De 6, il passe à 2 coureurs africains qui ne vont plus se quitter durant de longs, très longs kilomètres. Radi est officier dans l'armée marocaine. Il n'est pas sûr, mais pense avoir 30 ans lorsqu'il était bébé. Toute sa famille a été tuée lors du bombardement de son village. Bikila est également soldat. Il est membre de la garde impériale éthiopienne. Et à mesure que les deux hommes avancent dans la nuit, des torches tenues par des soldats italiens s'allument sur leur passage, formant une haie d'honneur de lumière. Le soldat éthiopien, salué par ses anciens ennemis, l'adrénaline emplit les artères de Bikila qui continue d'accélérer. Radi, cette fois-ci, ne peut plus suivre le rythme et laisse s'envoler son frère de continent à mesure que les pieds nus d'Abébé martèlent les pavés de la Via Appia. Puis soudain, voici la fameuse obélisque d'Aksum, ce trésor volé à l'Éthiopie par l'Italie fasciste. Bikila la passe en revue, seule en tête, quelques 48 ans avant qu'elle ne soit restituée à son pays d'origine. Le symbole est fort. Dans la tribune de commentateurs, l'Américain Bob Richards, double champion olympique de saut à la perche, est au bord des larmes. Je travaillais pour CBS à l'époque. Et là, dans ce marathon, ce coureur aux pieds nus apparaît. Je n'ai jamais oublié ce moment. Comment un coureur aux pieds nus pouvait-il courir un marathon sur ces pavés tranchants? Toutes les splendeurs de Rome étaient là, réunies devant nous. Caracalla, la Via Appia, l'Arc de Constantin et l'obélisque d'Aksum. C'était tellement dramatique car l'armée de Mussolini avait volé ce symbole de l'Éthiopie quelques années plus tôt. Et il était là, dans la lumière, face à Bikila. J'ai commencé à pleurer. Pour moi, ce fut l'un des moments les plus dramatiques et émouvants de l'histoire des Jeux Olympiques. Et quelques centaines de mètres plus loin, Bikila, en solitaire, franchit la ligne d'arrivée en vainqueur sous l'arc de Constantin, d'où 24 ans plus tôt, Mussolini avait lancé ses troupes à l'assaut de l'Abyssinie. Son nom est sur toutes les lèvres. L'exploit est incroyable. 2h15min16s2 dixièmes. L'empereur d'Éthiopie va probablement le promouvoir pour cela. Le record du monde tombe comme le record olympique de Zatopek, atomisé de plus de 8 minutes. Abebe Bikila devient également le premier noir africain sacré champion olympique, tout un symbole. Et le lendemain, dans la presse transalpine, Bikila devient également symbole pour avoir botté les fesses de l'Italie. Une petite phrase reprise avec délice par Onni Niskanen, le coach du marathonien. J'ai été heureux de lire cette phrase. Il a fallu une armée à Mussolini pour conquérir Addis Abeba. Il n'a fallu qu'un seul homme de la garde présidentielle éthiopienne pour conquérir Rome. Pour son exploit, le garde impérial Bikila est promu lieutenant. Mais trois mois plus tard, il est jeté en prison et menacé d'exécution pour tentative de coup d'État. Sa gloire naissante et le manque de preuves le sortiront de ce mauvais pas après quelques semaines de prison. L'Éthiopien entame alors une vraie carrière de marathonien. Oui, il est champion olympique, mais débute à peine dans le métier. C'est ce qu'il confiera quelques années plus tard à François Chalet lors d'un reportage diffusé dans les coulisses de l'exploit à la télé française.
Mes débuts, ce sont les Jeux olympiques de Rome. Ce sont ces Jeux qui m'ont donné l'idée de devenir un homme de sport. Avant, je n'y pensais même pas. Je me considère comme un homme ordinaire. Je ne me trouve aucune valeur physique exceptionnelle. Oui, c'est ça. Je pense que je suis un homme exactement comme les autres.
Un homme comme les autres, ou presque, qui 4 ans après les Jeux romains se prépare à défendre son titre à Tokyo avant d'être stoppé dans son élan et contraint de laisser un petit bout de lui-même. Cinq semaines avant les Jeux de Tokyo, j'ai été admis à l'hôpital d'Addis Abeba pour une opération de l'appendicite. Alors que j'étais en train de me remettre et que je me faufilais la nuit dans les couloirs de l'hôpital pour commencer mon entraînement, quelqu'un m'a demandé si j'étais prêt. Je lui ai répondu que si mon corps ne guérissait pas à temps, je courrais sur mes os. Et les os de l'Éthiopien sont solides, tout comme ses pieds, équipés cette fois-ci de chaussures de course. Bikila, qui fidèle à sa tactique romaine, va se contenter de suivre silencieusement en début de course avant de placer une accélération que même l'Australien Ron Clark, multiple recordman du monde du 5000 et du 10 000, ne peut suivre. D'habitude, quand on court avec quelqu'un, que ce soit à l'entraînement ou en course, on entend ou on sent qu'il est là parce qu'on entend des bruits de pas. Mais là, Bikila était complètement silencieux. Son pied ne faisait qu'effleurer le sol, à tel point qu'on pensait l'avoir lâché. Et là, d'un coup, il place une accélération. Tim Hogan a tenté de le suivre. Moi, je me suis dit, OK, les gars, je vais déjà essayer de finir la course. Et comme à Rome, 4 ans plus tôt, Bikila finit en solitaire, bat record olympique et record du monde et devient le premier homme à se succéder à lui-même dans un marathon olympique. Mais la belle histoire va se muer en tragédie. En 1967, il est d'abord victime d'une fracture du péroné qui l'empêche de défendre ses titres à Mexico. Deux ans plus tard, en mars 69, c'est encore plus grave, sur une route éthiopienne, il est victime d'un accident de la route qui le laisse paraplégique. Transféré à l'hôpital anglais de Stockmanville, il va réapprendre à vivre, puis à performer. Privé de ses jambes, il devient un as du tir à l'arc et est tout proche de participer aux Jeux paralympiques de 1972. Mais le sort n'en a pas terminé avec lui et finit par le vaincre en 1973 lorsqu'une hémorragie cérébrale, conséquence lointaine de son accident de voiture, met fin à ses jours. L'Éthiopie tout entière va pleurer son héros. 65 000 personnes participent aux obsèques nationales décrétées par l'empereur. Mais même de l'au-delà, le dieu africain aux pieds nus va poursuivre sa mission, donner envie et courage à tous les petits Africains de l'Est pour qu'ils deviennent à leur tour des dieux du stade, vénérés et admirés. Qu'ils soient éthiopiens ou kényans, les Gebrselassie, Bekele et autres Kipkoge, Toulou, sont toutes et tous les enfants légitimes du berger devenu garde impérial, puis champion olympique, fierté de son pays, héros de toute l'Afrique.
Histoire incroyable d'Abebe Bikila. Merci beaucoup Christophe Cessieux de nous l'avoir conté. Les Jeux Olympiques 1960, quelques secondes de réaction, juste ce qui vous a frappé et marqué, parce que j'imagine, et vous aussi les auditeurs, vous êtes nombreux à ne pas connaître cette histoire. Marie.
Deux choses, ça me rappelle l'humilité à laquelle je dois prétendre, et je pense on n'a qu'une vie, et ce mec-là, il a, même si sa fin est tragique, il a vécu sa meilleure vie, et ça m'a beaucoup touché. C'était vraiment chouette.
David.
Mais il y a toujours des précurseurs, il y a toujours des gens qui lancent des générations, et puis le futur, et il en fait partie. Ça, c'est, pour moi, c'est ceux qui montrent la voie, c'est sublime.
Jérôme.
Moi, deux choses. Un symbole du destin, c'est Abebe Bikila est né le 7 août 1932, le jour du marathon de Los Angeles. Il y a une destinée. Il est né le jour de la discipline où il allait devenir au champion olympique. Et la deuxième chose, c'est une vraie leçon, c'est qu'à la suite de sa victoire à Rome, il dit, dans la garde impériale, il y a des gens qui courent encore plus vite que moi. Mais ils n'étaient pas invités, ils n'étaient pas là. Ça donne un espoir aussi, et notamment dans mon sport. Aujourd'hui, on critique beaucoup, on manque de coureurs français de très gros talents, on cherche toujours le successeur de Bernard Hinault. Mais je pense qu'il est là, il est né, il ne fait peut-être pas du vélo, il faut peut-être gratter un peu. C'est une magnifique histoire.
Tout laisser était mieux avant, à retrouver en podcast, évidemment. Et puis nous remontons le fil de temps et du temps. Nous sommes en 1960. La prochaine fois, ce sera 1964 avec
Michel
toi,
Jazzy, la
mon
semaine prochaine.
Cher Christophe, évidemment, là, son histoire est un petit peu plus connue, mais tu vas magnifiquement nous la conter. 11h57, merci beaucoup les GG. Marie Martineau, David Douillet, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault. Merci à vous les GG. On se retrouve dimanche prochain à partir de 9h30 et tout de suite les paris RMC autour du classique OM PSG. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 13h, les paris RMC.